Merci pour toutes ces informations. Retour à 7 jours d'actualité avec la rédaction.
Une semaine d'actualité.
Geoffroy Loveau est en ligne avec nous, avec Cora Andrieux et d'autres spécialistes de la question. Il vient d'écrire « Quelle justice pour les peuples en transition ?», un ouvrage publié aux presses universitaires de l'Université Paris-Sorbonne. Il est notre invité aujourd'hui en ligne avec nous. Nous le retrouverons dans quelques instants.
RFI.
Prenons tout de suite la direction de l'Afrique pour revenir, hélas, sur le crash jeudi d'un avion affrété par Air Algérie, moins d'une heure après son décollage de Ouagadougou, destination Alger. Adrien de Calan nous a rappelé les faits hier.
La H-1017 a décollé vers 1h du matin de Ouagadougou hier. Le contact avec l'avion a été perdu plus de 30 minutes plus tard. Le pilote aurait demandé de modifier sa route à 1h38, temps universel, en raison d'une tempête, tandis qu'il survolait le nord du Mali. L'avion a disparu des radars après ce changement de cap. La météo était très difficile, confirment les autorités françaises, qui semblent jusqu'ici privilégier la piste de l'accident, même si aucune hypothèse n'est exclue. L'appareil était un McDonnell 83, jugé en bon état. Il circulait sur une ligne régulière entre Ouagadougou et Alger, affrétée par Air Algérie pour une compagnie espagnole Swiftair. À bord de l'avion, au moins 116 personnes, 110 passagers, 6 membres d'équipage avec de nombreuses nationalités représentées. Un équipage espagnol, des passagers algériens, burkinabés, mais aussi de nombreux voyageurs en transit, des Libanais, des Allemands, des Canadiens, des Ukrainiens ainsi que 51 Français.
Finalement, il y avait à bord 118 passagers, dont 54 Français. L'hypothèse d'une catastrophe provoquée par un orage a tout de suite était évoqué. Écoutez par exemple ce que disait sur notre antenne dans Afrique Soir Jean-Pierre Otelli, un ancien pilote.
Le facteur météo dans cette région du monde est très important parce que on est dans la région de ce qu'on appelle le FIT, le front intertropical. C'est une espèce d'ondulation météo qui évolue le long de l'équateur, qui est extrêmement violente, qui comporte des orages absolument énormes avec des têtes de cumulonimbus qui montent très haut dans le ciel. Les avions ne peuvent pas passer au-dessus, ils sont absolument obligés de les contourner. Et en général, ces orages se développent la nuit et les pilotes les repèrent avec le radar météo. C'est ce genre d'orage dans le front intertropical qu'a rencontré par exemple le vol Air France 447 qui s'est écrasé, le vol Rio-Paris. Un avion qui rentrerait dans un nuage, dans un cumulonimbus du front intertropical, soit par erreur, soit parce que le pilote n'aurait pas d'autre possibilité que de rentrer dedans, il n'a aucune chance. Hein. Il est évident qu'il va se crasher.
L'épave de l'avion a, vous le savez, été localisée au Mali dans la nuit de jeudi à vendredi. Pour tout savoir sur les suites de ce crash, je vous conseille d'écouter nos journaux ou d'aller sur le site rfi.fr. En France, en bref, l'actualité a été marquée par des rassemblements pro-palestiniens ces derniers jours, dans le contexte bien sûr de la guerre entre le Hamas et Israël, dont nous parlions tout à l'heure, incident le week-end dernier à Paris. Mercredi soir, en revanche, tout s'est bien passé lors d'une nouvelle manifestation dans la capitale française. Reportage de Pierre-Olivier.
Ils sont des milliers à reprendre en cœur ce genre de slogan contre l'État d'Israël. Parmi les manifestants, Betty arbore fièrement une étoile jaune sur son gilet.
J'appartiens à l'Union juive française pour la paix et je veux montrer que tous les juifs de France ne sont pas représentés par le CRIF. Nous, on est solidaires de tous les peuples colonisés. Voilà, et en particulier des Palestiniens.
Solidaires également certains hommes politiques comme Jean-Luc Mélenchon du parti de gauche et des députés PS. Pascal Cherki, député socialiste de Paris, est venu, même si son chef de file à l'Assemblée l'avait déconseillé.
Non mais c'est pas ça le débat, moi je rentre pas dans ces considérations-là. Moi je vous dis, comme député socialiste, par rapport à ce qu'a toujours été d'abord mes convictions profondes, deuxièmement la position de mon parti, voilà. Donc dans cette affaire-là, je viens défendre des convictions. Il faut obtenir un cessez-le-feu le plus rapidement possible.
Dans le cortège tenu par un important dispositif de CRS, pas de heurts notables, mais des appels à boycotter les produits israéliens.
Pas d'avocat, pas de pamplemousse, pas d'orange, pas de tomate ou tomate cerise.
Finalement, après une vingtaine de minutes d'échauffourées peu violentes, les manifestants quittent dans le calme l'esplanade des Invalides aux alentours de 21h30.
Une semaine d'actualité.
Il nous faut maintenant faire une escale à Alger, Geoffroy Loveau, avant de vous écouter à nouveau, car dans la capitale de l'Algérie, il y a aussi un processus de négociation pour mettre fin à une crise. Il concerne le Mali et le dialogue entre les groupes armés du Nord et le gouvernement. Un accord a été trouvé jeudi. Mélissa Chemam.
Alger est donc parvenu à au moins un premier succès, la signature de cet accord intermalien, après un premier tour de négociation délicat. Et les parties invitées se sont mises d'accord pour se retrouver en août. Tous les membres des délégations représentant les groupes du Nord du Mali et Bamako semblent satisfaits d'un premier pas jugé positif. Ils se sont en tout cas entendus sur une feuille de route consensuelle. Y est inscrit le principe du respect de l'intégrité territoriale du Mali, sur laquelle le régime ne voulait en aucun cas transiger, ainsi que sur la forme laïque actuelle de l'État malien. Les trois composantes principales des mouvements rebelles, le Mouvement National de Libération de l'Azawad, MNLA, le Mouvement Arabe de l'Azawad, MAA, et le Haut Conseil pour l'Unité de l'Azawad, HCUA, ont tenté de présenter des revendications communes, mais il existe encore des divergences entre Touaregs, mais aussi entre les Touaregs et les groupes arabes. La suite des négociations en août prochain, a priori du 17 août au 11 septembre, devrait lancer la recherche d'une solution durable de sortie de crise. Cette semaine, la région de Kidal a encore été le théâtre de violences, notamment autour de localités où s'affrontent des groupes dissidents. Les discussions pourraient ainsi se terminer en octobre. Le but est d'obtenir un plan de paix qui sera alors signé à Bamako à une date encore non précisée.
Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Geoffroy Loveau. J'ai oublié de dire, Geoffroy Loveau, que vous êtes philosophe, agrégé docteur en philosophie et que vous travaillez, vous faites vos recherches au sein de l'Université de la Sorbonne, puisque vous appartenez au Centre de philosophie politique appliquée de l'Université Paris-Sorbonne, il fallait que je le précise quand même. Quand on parle de justice transitionnelle sur le continent africain, tout de suite vient l'Afrique du Sud à l'esprit et les célèbres commissions Vérité et Réconciliation.
Oui, effectivement, c'est un peu paradoxal d'ailleurs, c'est parce que c'est une expérience qui est présentée souvent comme la première et qui apparaît comme la plus célèbre. Alors c'est paradoxal à deux titres, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'Argentine qui a été pionnière dans l'élaboration de ce type de mécanisme, et c'est paradoxal également parce que la Commission de la Vérité et de la Réconciliation, cette commission qui a été mise en place en 1995, est une commission qui est assez particulière, qui est un des mécanismes de justice transitionnelle. Quand je dis que c'est un des mécanismes, c'est parce que, à la différence de l'Argentine, qui avait initialement pour but de rechercher les coupables en quelque sorte et de punir selon un mécanisme judiciaire assez classique, finalement assez traditionnel, rechercher le coupable et le punir, l'Afrique du Sud avait plutôt pour but d'amnistier ou de pardonner, c'est-à-dire de rechercher la vérité et la réconciliation, comme son nom l'indique, donc moins de punir et d'aller un peu à rebours du mécanisme judiciaire classique qui vise à punir et à séparer les personnes, mais là plutôt donc à les réconcilier. C'est pour ça que c'est paradoxal, il y a ce double élément d'ambiguïté lorsqu'on cite l'Afrique du Sud.
C'est ce que vous écrivez, la tension de la justice transitionnelle s'est ainsi déplacée des bourreaux vers les victimes et la nécessité de les guérir afin de refonder une société plus juste et plus inclusive, c'est ça ?
Oui, c'est ça, parce que l'exemple argentin ne déroge pas à cette logique, hein, mais c'est parce que justement, au fur et à mesure de l'exemple argentin, et au fur et à mesure d'un certain nombre d'autres cas, on s'est aperçu peut-être qu'on ne pouvait pas appliquer un mécanisme judiciaire classique visant à repérer, punir et enfermer. Puisque quand des traumatismes ont couvert des pays, voire plusieurs pays, quand il y a des conflits interethniques par exemple, quand des mécanismes de violence ont couvert plusieurs pays, peut-être qu'il est difficile justement d'enfermer tous les bourreaux, de séparer à nouveau un peuple en deux ou en trois, et ensuite de pouvoir continuer à vivre ensemble. Et donc on s'est aperçu au fur et à mesure de l'évolution de la justice transitionnelle que le paradigme classique de la justice qui consiste à punir et enfermer, même si c'est réducteur pour une justice traditionnelle, on s'est aperçu que ce paradigme est limité et qu'il fallait peut-être réconcilier et trouver d'autres idées pour remettre un peuple ensemble.
Alors votre livre est un livre collectif avec des contributions de plusieurs spécialistes. Il évoque ce livre des exemples dans le monde entier et on y voit évidemment beaucoup l'Afrique, évidemment l'Afrique du Sud, on vient d'en parler, mais aussi ce qui s'est passé au Rwanda, parce que certes il y a eu le tribunal pénal pour le Rwanda, mais il y a eu aussi quelque chose de très important, c'était les tribunaux, les gachachas, la justice communautaire, et ce mot communautaire était un mot clé.
Oui, bien sûr que c'est un mot-clé. Alors là, encore une fois, on est confronté à un exemple qui est très très particulier. C'est la raison aussi pour laquelle nous avons choisi de faire intervenir cet exemple et de mobiliser une des spécialistes sur cet exemple, qui est Hélène Dumas, qui a fait une thèse sur ces tribunaux-là. Alors, justice communautaire, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut apparaître comme paradoxal, parce que on a souvent l'impression que la justice doit être exempt de parti, exempt de communauté. Ne doit pas être interne à une communauté, doit être une instance supérieure ou transcendante. La particularité du Rwanda, donc dans l'article, c'est ce que montre Hélène Dumas, c'est d'être un processus judiciaire qui s'est déroulé à l'intérieur de la communauté avec une mise en scène, justement, véritablement, de ce discours et de la volonté de raconter à l'intérieur de cette communauté ce qui s'était passé. Et donc, ça avait moins pour but de punir que de comprendre et de partager un discours, initialement. Et c'est ce qui en fait cette typicité, mais c'est pas pour autant que cet exemple est représentatif, et c'est d'ailleurs ce que défendent la plupart des spécialistes du Rwanda, cet exemple n'est pas du tout représentatif de la justice transitionnelle en général, ou de ce qui a pu se passer en Afrique du Sud ou en Argentine.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
C'était notre adresse électronique. Merci pour vos messages. Continuez évidemment à nous écrire et à la page aussi Une Semaine d'Actu de Facebook. Bonjour aujourd'hui à Amadou Aboulé à Niamey au Niger. C'est avec un grand plaisir, écrit-il, que j'ai l'honneur de vous écrire ce mail pour vous encourager sur tout ce que vous faites pour nous. Vraiment, RFI, la radio des radios, c'est-à-dire la mère des radios, écrit-il. Je profite de cette occasion pour souhaiter à tous les musulmans du monde une bonne fin de Ramadan. Enfin, je salue mes amis comme Boiré à Bamako, Arabi à Magaria, sans oublier Karim à Mostaganem en Algérie. Bonjour Abdoul Karim à Ouaga, à Larba Anthony Tony à Milan. Un salut à Yannick à Douala, à Joseph à Lubumbashi, à Tierno à Dakar et à Tierno Ibrahima à Labé en Guinée.
Sept jours en Afrique.
Et avant de retrouver Geoffroy Lovaux dans quelques instants, revenons tout de suite sur l'accord de Brazzaville, qui doit donc théoriquement mettre fin à la crise en Centrafrique, mais il faut être prudent. Retrouvons Léa-Lisa Westerhoff, mercredi.
Main dans la main, Mohamed Moussa Dafan et Patrice Edouard Ngaïsona sont venus s'engager au nom de leur mouvement, les Séléka et les Antibalaka, à faire taire les armes. Pour Abdonaden du Conseil national de la jeunesse, c'est un signal fort.
Pour ceux-là qui pensaient que ça devait être un fiasco, les Antibalaka et les Séléka se sont salués, il y a eu des accolades. C'est le début de quelque chose.
Pour aboutir à cette signature, il aura fallu 3 jours d'intenses consultations faites de revendications chocs et de coups de théâtre. Au final, les Séléka ont accepté de signer un accord sur les 3 prévus initialement. Mais pour Léa Kouyasoudoumta, vice-présidente du Parlement de transition, c'est une première étape importante.
C'était l'accord prioritaire. Ils ont pris l'engagement aujourd'hui que les hostilités vont cesser sur notre territoire pour nous permettre d'engager les autres aspects politiques, les aspects de désarmement en République centrafricaine.
Cesser immédiatement les hostilités, s'engager à ne plus commettre d'exactions sur les civils et cantonner leurs hommes, voilà les principaux engagements de cet accord qu'il va falloir réussir à faire appliquer, comme l'explique l'ancien Premier ministre Anissé Dologuélé.
Le processus qui démarre devrait être poursuivi avec beaucoup d'attention par tous les participants au Forum de Brazzaville, pour qu'il y ait des résultats tangibles pour le pays.
Principale crainte, que les 2 groupes divisés pour ce qui est des Séléka et peu coordonnés pour les Antibalaka échouent à faire respecter la fin des hostilités sur le terrain.
À suivre dans nos journaux, notez aussi une attaque du camp militaire de Tchatchi à Kinshasa mardi par un groupe d'hommes armés qui ont été maîtrisés par l'armée congolaise, une nouvelle progression du virus Ebola en Sierra Leone, Liberia et Guinée, et le sauvetage de quelques 800 migrants africains et syriens en Méditerranée par la marine italienne au large des côtes de la Sicile. Suite d'une semaine d'actualité sur le continent africain, au Nigeria maintenant, la ville de Kaduna, au nord du pays, a été frappée par deux explosions mercredi, au moment même où à Niamey, au Niger, les dirigeants de quatre États riverains du lac Tchad ont décidé de créer une force armée multinationale pour lutter contre Boko Haram. Mélissa Chemam.
Kaduna est considérée comme la capitale politique du nord du Nigeria, toujours largement clivée entre nord musulmans et sud chrétiens. La région, régulièrement ciblée par Boko Haram, avait été relativement épargnée ces 12 derniers mois par rapport à d'autres villes du nord-est du pays. La police soupçonne en premier chef Boko Haram, les dignitaires musulmans modérés, condamnant régulièrement ces violences. Le groupe islamiste accuse quant à lui les imams du nord du pays de se soumettre aux autorités. Une attaque de plus alors que les pays de la région tentent de se coordonner pour lutter contre les violences islamistes. Hier, en même temps que les attaques de Kaduna, à Niamey, des représentants du Niger, Nigeria, Tchad et Cameroun étaient réunis pour décider de la création d'une force armée commune multinationale. Dans un entretien télévisé, le chargé des questions de défense pour la présidence camerounaise, Mbengo Edgar Alain, a précisé que la commission du bassin du lac Tchad s'engage ainsi à envoyer 700 hommes au sein de cette force. Le ministre nigérien de la Défense a quant à lui souligné que la région se trouvait face à une situation sécuritaire sans précédent, née principalement de la menace terroriste due à Boko Haram. Le Bénin, également membre de l'organisation de la commission du bassin du lac Tchad, pourrait lui aussi participer. L'organisation et les contours de cette force devraient être annoncés prochainement.
Une semaine d'actualité.
Partons cette fois pour le Niger. Les éleveurs sont en effet en crise dans le nord du pays, dans la région d'Agadez, pour être précis. Correspondance de Raliou Ahmed Hassan.
La situation est beaucoup plus critique dans les zones d'Adarbisnat, Ingal et Tirozirine. Là-bas, une vache peut se vendre à moins de 2000 francs CFA. Souvent, les bouchers n'en prennent même plus tellement qu'elles sont mourantes. Il en est de même pour les petits ruminants. Cela est la conséquence de la saison des pluies qui tarde à s'installer. Les animaux n'ont donc rien à brouter. Situation que le ministre de l'élevage est venu constater lui-même. Suite à sa visite, une opération de déstockage du cheptel vient d'être lancée ce dimanche par des équipes envoyées sur le terrain. Elle consiste pour l'État à acheter auprès des éleveurs les animaux les plus affaiblis. Les caprins et les bovins sont ainsi achetés à 50 000 francs CFA l'unité et les petits ruminants à 10 000 francs CFA. Avec ces revenus, les éleveurs peuvent se procurer des aliments pour bétail à des prix largement revus à la baisse pour la circonstance. Mais les 1 000 tonnes d'aliments pour bétail acheminés sur Agadez sont très en deçà des besoins, évalués à quelque 3 400 tonnes pour cette période de crise.
Suite d'une semaine d'actualité, avant de retrouver Geoffroy Loveau, terminons notre revue en Somalie pour revenir sur l'assassinat mercredi de la députée et chanteuse de renom Sado Ali Warsam sur cette femme engagée, l'éclairage de Sarah Tisser.
Tout le monde en Somalie connaît les chansons de Sado Ali Warsam, à commencer par cette romance, Unaabi, qu'il a révélée au grand public à ses débuts dans les années 70. Alors jeune chanteuse, elle n'hésite pas à revêtir pantalons et t-shirts. Elle ne s'est jamais gênée non plus pour monter sur scène cheveux découverts. Sa popularité, Sado Ali Warsam, ne la devait pas qu'à sa voix, elle la devait aussi à son courage. Avant le renversement de Siad Barré en 91, elle est l'une des rares à oser critiquer son régime, ce qui lui vaut d'ailleurs deux incarcérations. Ses chansons appellent à plus de justice sociale et politique, comme Land Cruiser, un de ses morceaux célèbres de la fin des années 80. Elle y dénonçait les détournements de l'aide au développement, accusant les officiels d'utiliser l'argent pour leur 4x4 plutôt que pour venir en aide à la population. Exilée ensuite aux États-Unis pendant la guerre civile en Somalie, Sado Ali Warsam n'avait depuis cessé de chanter, encourageant ses compatriotes à travers ses paroles à déposer les armes et à s'unir. Elle était revenue s'installer en Somalie il y a 2 ans pour entrer au Parlement. Somalia.
Une semaine d'actualité donc, et nous rejoignons Geoffroy Loveau en ligne avec nous. Quel regard le philosophe politique que vous êtes, Geoffroy Loveau, porte sur cette notion, ce concept de justice transitionnelle? Est-ce que c'est quelque chose qui est fondamentalement nouveau selon vous, ou est-ce que c'est de la forme actuelle de quelque chose qui existait déjà avant?
À mon sens, c'est quelque chose de fondamentalement nouveau, puisque ça bouleverse à la fois la représentation qu'on pouvait avoir de la justice comme institution judiciaire et même comme concept ou comme notion politique. Donc c'est quelque chose de nouveau de ce point de vue-là, parce que la justice au plan politique se déroulait à l'intérieur d'États ou de souveraineté nationale, et c'était une institution qui était en quelque sorte adossée à un État. Donc là, la justice transitionnelle est en quelque sorte une justice qu'on appelle maintenant globale, ou qui est partiellement globale, puisque elle implique l'intervention d'acteurs internationaux comme l'ONU, et elle implique l'universalisation d'un certain nombre de valeurs au plan éthique et politique, l'universalisation de valeurs qui n'étaient pas acquises dans certaines zones. On parlait tout à l'heure dans votre revue de la Centrafrique, il est évident qu'il y aura très certainement des mécanismes de ce type-là en Centrafrique, alors qu'on ne se serait pas nécessairement attendu d'avoir ce type de mécanisme initialement. Donc ce qui est sûr, c'est que c'est nouveau, c'est pas quelque chose qui a existé de ce point de vue-là. Maintenant, le nouveau, on le pense toujours avec un certain nombre de concepts disponibles, c'est intéressant également au regard de l'héritage de la philosophie politique. Parce que c'est un peu un cas d'espèce qui permet de tester beaucoup de choses, et notamment justement les valeurs dont on se sert pour construire cette justice transitionnelle, qui sont très souvent les valeurs des droits de l'homme. Et ça permet de tester ces valeurs des droits de l'homme hors d'un contexte qui est celui de la démocratie bien établie depuis des années, etc. On le voit en Tunisie, on le voit dans pas mal de pays du printemps arabe, lorsqu'ils font leur transition démocratique ou pas, mais lorsqu'ils sortent de la violence, ils mettent en place un processus de justice transitionnelle qui se met en place en même temps que la démocratie. Et là, c'est quelque chose de très nouveau et de très intéressant, parce que ça pose tout simplement la question de la transposition de ces valeurs, qui sont plutôt des valeurs initialement occidentales, c'est les droits de l'homme, à des zones qui ne sont pas occidentales et dans des contextes qui ne sont pas forcément démocratiques. Et donc là, c'est très intéressant au regard même de l'histoire de la philosophie politique.
Et la démarche est vertigineuse presque, Geoffroy Loveau, vous l'écrivez vous-même, la démarche de la justice transitionnelle à cet égard apparaît fondamentalement ambitieuse. Il ne s'agit de rien de moins que de penser les modalités de la transformation globale, voire de la guérison d'une société traumatisée.
Bien sûr, les finalités sont incroyables. Et c'est d'ailleurs un peu, on va dire, la difficulté et la richesse de l'ouvrage qu'on a voulu diriger. On a réuni, vous le disiez, des politistes, des juristes, des philosophes, des historiens, toutes sortes de spécialités. Pour une raison très simple, c'est que il n'y a pas que des philosophes qui parlent de justice transitionnelle. D'ailleurs, initialement, c'est plutôt des juristes qui parlent de justice transitionnelle. Donc, il y a toutes sortes de spécialistes qui parlent de la justice transitionnelle, il y a toutes sortes de contextes, il y a toutes sortes de finalités. Et donc, dans cet ouvrage, vous aurez différents points de vue sur, justement, la justice transitionnelle. Des personnes qui pensent que la justice transitionnelle est en quelque sorte un habillage occidental de façade.
La critique est réelle, hein, et vraiment présente.
Oui, elle est très présente. Elle est très présente. Il y a au moins la moitié de l'ouvrage où on a des auteurs qui sont, et qui pourtant travaillent depuis 15 ans, 20 ans, sur le concept, sur la notion, sur le mécanisme, mais des personnes qui sont très prudentes en disant, bon, ben, tout simplement, c'est soit de la transposition de valeurs occidentales dans d'autres contextes, soit un artefact de l'intellect, c'est-à-dire un produit artificiel qui fait qu'on compare des situations qui sont pas comparables. Donc vous avez des critiques très réel. Puis vous avez d'autres personnes, je fais plutôt partie de ces autres personnes, qui pensent que, au contraire, il y a vraiment la naissance d'un objet qui a sa cohérence. Hein, Cora Andrieux, qui a dirigé l'ouvrage, pense à peu près la même chose. On pense que ça a sa cohérence, que c'est comme beaucoup de mécanismes et de nouvelles notions, des notions qui demandent à s'affermir, à se distinguer également pour voir quels sont les différents versants, mais que ça a véritablement une cohérence et que les ambitions sont légitimes, qu'il y a moyen de mettre en place des valeurs au plan politique et au plan éthique qui transcendent les espaces nationaux et qui permettent de porter peut-être un peu plus loin de la paix, voire de la démocratie.
Parce que, rappelons-le pour conclure, Geoffroy, il ne s'agit pas simplement de justice. Il y a plein de domaines qui font la réalité de cette justice transitionnelle, même des domaines qui sont totalement irrationnels. Quand on parle de justice, on parle aussi de vérité, comment établir la vérité. On parle aussi de psychologie, on parle de choses comme ça.
Si on le dit très simplement, la justice transitionnelle, elle a quatre objectifs, la reconnaissance des crimes qui ont été effectués, la confiance, établir la confiance au sein d'une société, le droit, tout simplement, mettre en place des nouvelles règles, et puis la réconciliation. Donc, dans reconnaissance, confiance, droit et réconciliation, on voit bien qu'il y a une foule d'objectifs qui ne sont d'ailleurs pas forcément cohérents entre eux, et il y aura des priorités à établir. Et donc, le but de notre ouvrage, c'est de montrer, à travers ces différents cas, comment peuvent s'établir ces différentes priorités, et si, à travers ces différents cas, il peut y avoir un certain nombre de dénominateurs communs qui permettent de théoriser, ou de faire avancer cette théorisation de la justice transitionnelle.
Merci Geoffroy Leveau. Je recommande en tout cas ce livre, Quelle justice pour les peuples en transition, publié donc aux presses universitaires de Paris-Sorbonne, que vous avez dirigé avec Cora Andrieux, que l'on connaît bien ici, puisque nous l'avions invité dans cette émission. Merci.
Merci beaucoup.
Une semaine d'actualité réalisée par Vanessa Rovensky. Je vous retrouve demain pour Idées qui vous accompagne tout l'été, vous le savez. Nous parlerons des idées du Front National avec Valérie Igounet, chercheuse, historienne, spécialiste de l'extrême droite et du négationnisme aussi. Demain dimanche, Idées à 17h10 heure de Paris et aussi à 12h10, midi 10, le dimanche pendant l'été. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.